à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la guerre des gamers. Et aujourd'hui, j'ai une grosse annonce à vous faire puisqu'on reçoit une toute nouvelle tête au sein de l'équipe de la guerre des gamers. Et c'est Thalder. Thalder, comment tu vas?
Ça va très bien, merci de m'accueillir.
On est ravis de t'avoir pour cette première avec nous. Alors pour nos auditeurs apprennent un peu plus à te découvrir, hein, je vais te demander de me citer trois jeux qui pourraient te définir et pourquoi.
Ça marche. Alors trois jeux, déjà je vais commencer par mon jeu de cœur, Returnal. C'est un des tout premiers jeux qui a été sorti sur la PS5. Et c'est un TPS roguelite. Alors le fait que ça aille vite, le gameplay qui est aux petits oignons, c'est rapide, c'est exigeant. Mais il y a aussi l'histoire qui est hyper intéressante et hyper profonde.
D'accord.
Ça m'avait vraiment retourné le cœur et l'esprit. J'y ai joué plus de 400 heures. Je refuse de le lâcher.
Et Joss, je la valide, elle est géniale. Hein. Returnal, ouais, c'est formidable comme jeu.
Moi, je ne l'ai pas fait, mais j'ai entendu des très très bons retours dessus.
Ensuite, en deuxième jeu, j'ai choisi Subnautica.
Ok.
Je ne suis pas forcément super jeu de survie, mais alors l'exploration dans celui-ci, c'est vraiment incroyable. Il y a des moments où on arrive dans des zones, ça laisse complètement bouche bée avec la musique qui est incroyable. Vraiment, ça a été une super expérience. Et si je devais oublier un jeu pour le redécouvrir, ce serait clairement celui-ci. En troisième, Silent Hill, plus particulièrement le 2.
Oh là
ça
là.
Manque les jeux comme
mais
ça, vraiment.
Elle est parfaite.
On veut des jeux bien dark, bien glauque, bien sale, mais avec une histoire hyper profonde. Vraiment, ça manque.
Donc, on va partir en règle sur le remake de Silent Hill cette année, tous ensemble, non?
J'ai un petit peu peur, mais oui, je vais le faire, ça c'est sûr.
Idem, on va tous y jouer, quoi qu'il en soit.
Hein. C'est un gros débat. Je crois que je suis la seule à être plutôt enthousiaste et plutôt confiante de la Bloober Team, même si on sait qu'il y a énormément de problèmes en interne. Mais bon, écoutez, on le découvrira tous ensemble cette année, puis on vous fera une review dessus.
Hein. Ça, c'est sûr.
Vous l'avez entendu également avec moi, je ne vous le présente plus, on retrouve French, l'incontournable membre de la guerre des gamers depuis les tout débuts. Comment tu vas aujourd'hui, mon French?
Ben, ça va super, bienvenue, t'as le dire aussi.
Merci.
J'en profite. Et ça va super, ça va super. Moi, je joue beaucoup à FF7 Rebirth, toujours. Et je suis très surpris du fait que tout le monde s'emballe sur ce jeu. Je suis en train de me demander si ce n'est pas un excès de nostalgie chez certains. Bon, on en reparlera, bien sûr.
Et moi, à l'inverse, je suis très surprise que tout le monde critique Rise of the Ronin, alors que je trouve que c'est un excellent jeu de ce début d'année et qui mérite énormément d'éloges. Mais pareil, on en parlera dans une future review, ne vous inquiétez pas. Bien sûr, je tenais juste à faire une petite pensée à Nao et Jalma, nos deux membres iconiques. Ils ne sont pas là aujourd'hui, ils sont en vacances, ils ont bien raison de profiter. On les embrasse très fort et on pense à eux. En attendant, aujourd'hui au programme de ce podcast, retour sur les dernières actualités du moment, notamment avec la PS5 Pro, qui ne manque pas de faire parler d'elle avant même sa sortie, avec plusieurs rumeurs et aussi des annonces. On reviendra un peu sur ces déclarations. Mais aussi avec Microsoft et Epic Games qui peineraient de plus en plus à soutenir les petits studios, voire se désintéresseraient totalement de plusieurs projets qui sont pourtant déjà en deal. Donc on va voir un peu tout ça. Puis place au débat avec l'indie game Open Road. Alors c'est une aventure narrative qui traite des secrets de famille, des relations mère-fille autour d'un road trip pourtant plein de promesses mais légèrement parsemées d'embûches. On vous fera notre analyse en seconde partie de ce podcast. Et pour conclure, j'aimerais qu'on revienne exceptionnellement sur un autre indie game. Je sais que French, tu as tout particulièrement adoré ce jeu. On vous parlera de The Thaumaturge, en fait. C'est une proposition pour le moins originale, si je puis dire, développée par Fool's Theory, à qui on devra prochainement le remake de The Witcher 1. Je ne vais pas vous en dire plus pour le moment, puisqu'on lui consacrera la dernière rubrique de ce podcast. Donc on va garder ça un peu surprise. Allez, écoutez, vous avez tout le programme. On va tout de suite passer à l'actu mitraillée.
C'est l'heure de l'actu mitraillée.
On apprend donc, suite à des débats lors de la Games Developer Conference à San Francisco, que plusieurs développeurs se posent la question de l'utilité de la PS5 Pro. À peine plus puissante que la PS5 classique, qui n'est déjà pas exploitée à son maximum, on l'a vu avec les sorties récemment, on peut donc se poser la question, French, à quoi serviront réellement les caractéristiques de la PS5 Pro?
Eh bien, comme tu le dis, Majos, comme tu le dis, effectivement, on peut se poser beaucoup de questions. Alors, on peut se poser des questions sur deux axes. Par exemple, quel va être l'intérêt pour nous, les joueurs? Et également, quelles sont les problématiques des développeurs? On va parler d'abord des joueurs. Pour nous, vous l'avez tous constaté, quand on joue à un jeu en 4K, en général, on est limité en FPS. Vous prenez Spider-Man 2 récemment, vous prenez même Final Fantasy VII Rebirth, vous tournez à 30 images par seconde en 4K native, le fameux mode qualité. Vous pouvez passer un petit peu plus si vous avez une télé qui est compatible VRR, mais ça, c'est autre chose, c'est plus subtil, et ce n'est pas l'essentiel du parc des joueurs et des machines que les joueurs possèdent, et des périphes que les personnes possèdent. Alors, il ne faut pas oublier que, quoi qu'il en soit, pour nous joueurs, on pourrait se dire, bon, bah, on va avoir des jeux plus fluides, on va avoir des jeux peut-être avec une IA qui va être plus travaillée des ennemis, on va peut-être avoir des open world un peu plus vastes, avec plus intéressants, plus riches. Oui, mais tout ça, il faut quand même rappeler un truc, c'est que le développement se fera toujours sur la première PS5, la PS5 de référence. Donc en fait, cette fameuse PS5 Pro, si elle porte ce nom, puisqu'on ne le sait pas encore, eh ben, elle aura un intérêt tout relatif, et très probablement, ce sera juste un apport technique, tout comme la PS4 Pro l'a été.
Mais PS4 Pro, il y avait un vrai gap. Là, on parle vraiment de quelque chose de minime, quand on parle d'amélioration des qualités d'image, de ray tracing, etc. Mais c'est bien que les jeux soient plus beaux et plus stables, mais encore faudrait-il que les jeux exploitent réellement cette technologie, ce qui n'est déjà pas exploité sur la PS5 aujourd'hui. Quel sera l'apport de la PS5 Pro si le développement de support, en fait?
Bah, c'est exactement ça qui pose effectivement souci, parce que pour un développeur, ça va compliquer la tâche, forcément, parce que ça va lui ajouter une machine de plus sur laquelle il va falloir développer ses jeux, et en tout cas penser ses jeux. Voilà, puisque qu'on le rappelle, ce sera toujours la PS5 basique qui sera la console de référence. C'est-à-dire que votre GTA 6 qui sort l'année prochaine, il tournera sur la PS5, quoi qu'il arrive. Un développeur ne peut pas s'en passer. Et effectivement, Joss, moi je te rejoins totalement là-dessus, parce que faut pas oublier que quand les PS5 et Xbox Series X sont sortis, on nous a vanté plus ou moins, et ça figure même, paraît-il, sur la boîte de la Xbox Series, je ne peux pas vérifier, je ne la possède pas, le fait qu'il y ait des jeux en 60 FPS en 4K. Hey, mais force est de constater que la vérité, elle est complètement ailleurs. Beaucoup de jeux en résolution native 4K ne tournent pas avec les fameux 60 images par seconde. Alors c'est peut-être là qu'une PS5 Pro aura peut-être un petit avantage à apporter, parce que tu dis que la PS4 Pro à l'époque, c'était un petit changement
en fait,
mais
c'est qu'elle était faite pour les écrans 4K, pour l'arrivée de ces écrans 4K, et donc il y avait quand même un vrai apport. Là, la PS5 Pro, elle veut être faite pour viser la résolution 8K, mais c'est une technologie qui est encore en développement chez Sony, donc voilà où est la distance en fait.
Moi, je effectivement, alors après, sur le carton de la PS5, on nous parle aussi que c'est compatible 8K hein, déjà, hein, donc bon, tout ça c'est pas si neuf que ça. Moi, je me dis que quelque part, ils vont essayer de pousser le 60 images par seconde pour la PS5 Pro, tout simplement. Moi, je trouve ça un petit peu limité. Et surtout, je me pose la question du timing. Pourquoi, même si ce sont des rumeurs à ce stade, pourquoi en parler maintenant et sous réserve la sortir en fin d'année 2024? Pourquoi je pose cette question? Parce qu'on s'est aperçu, via une récente étude qui est sortie là ces derniers jours, que les joueurs, en fait, ils restent beaucoup sur leur backlog. Sur l'année 2023, c'est ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas forcément été vers les nouveautés. Ils jouent à leur MMORPG ou à leur jeu online aussi habituel. Et donc, du coup, il y a un attrait pour la nouveauté, sauf les très grosses sorties, qui est un peu moins fort. Alors finalement, je me dis, peut-être que le seul intérêt de cette PS5 Pro, ça sera peut-être d'avoir une baisse sur la PS5 FAT, l'ancienne PS5. Mais bon, ça, on ne le sait pas encore.
Parce que là, pour le coup, elle va être vendue quand même beaucoup plus cher. On parle de 600€ à peu près pour cette PS5 Pro.
Pareil pour la PS4, quand ils avaient fait la PS4 Pro, c'était 100€, 100$ de plus que la classique.
Mais ils apportaient le label, ça s'est vu sur la PS4. Alors, excusez-moi la prononciation, enhanced. On le retrouve également là sur la PS5 Pro. Moi, quand même, une question que je me pose, c'est que oui, est-ce qu'on n'est pas dans la surconsommation de nouvel hardware plutôt que de sortir juste peut-être ce label avec les jeux qui vont être référencés, qui vont exploiter vraiment la pleine puissance de la PS5 avec des améliorations graphiques, hein. Est-ce qu'on ne serait pas plus intéressant de tabler juste sur la sortie de ce label-là avec les jeux qui l'exploitent plutôt de sortir une PS5 Pro classique et encore une fois de toujours consommer et surconsommer et sur des
Je vois totalement, surtout dans l'ère actuelle, où ça me paraît assez aberrant de sortir une machine où sa raison d'être ne se justifie pas totalement.
C'est ça.
Mais
c'est ça.
En même temps, je me dis, bon, FF7 Rebirth, c'est un jeu peut-être que vous jouez, vous qui nous écoutez, et c'est un jeu qui, lui, tourne en 30 images par seconde, en mode qualité. Donc, soit il y a eu un petit problème au niveau du dev ou au niveau de l'optimisation, ce qui est possible, je ne suis pas dans les équipes de Square. Ou alors, il y a quand même ce besoin de puissance pour aller chercher un petit peu plus quelque chose.
Moi, je pense que c'est surtout quelque chose de marketing, parce que je vois, moi, pour la PS4, j'avais terminé la génération avec la classique et tout tournait très bien. Ghost of Tsushima, Death Stranding, etc. J'avais tout fait avec la classique et ça fonctionnait très bien. Donc là, je vais prendre le même chemin. Pour moi, la PS5 Pro, ce sera pas pour moi. Je finirai la gêne, je pense, avec la classique.
Pareil, t'as raison, c'est sûrement un attrait marketing. Hein. Les grosses sorties qu'il va y avoir sur les années à venir, on les connaît, les GTA 6, etc. Il y aura sûrement des packs. On dirait que la PS5 Pro. Voilà. Ouais. Sinon, hein, toujours lors de la CGD, hein, deux acteurs de la scène indépendante ont déclaré que plusieurs partenaires, et plus précisément, ils ont mentionné Microsoft et Epic Games, auraient, suite à des baisses d'intérêt, notamment minimisé les investissements concernant les projets indépendants. Alors, on apprend hein, suite à ça qu'il y a de nombreux développeurs qui recherchent aujourd'hui de nouvelles sources de financement, puisque la place sur ces services d'abonnement se fera donc de plus en plus rare, se fait déjà et se fera de plus en plus rare. French, comment justifies-tu que ces accords soient autant bouleversés dernièrement?
Alors, il y a des raisons multiples à évoquer, évidemment. La première, et ça ne vous aura pas échappé si vous suivez un petit peu l'actu des jeux vidéo, c'est les multiples licenciements auxquels on assiste dans le secteur.
Eh oui.
Ce qui laisse à penser certains qu'il y a peut-être une crise assez profonde et peut-être une bulle qui est en train d'éclater.
Ouais.
Voilà. Et donc, là, il y a une véritable réflexion. Alors, ça, c'est ce qu'on arrive à observer, c'est ce qu'on arrive à lire dans l'actu. Donc, quelque part, on peut comprendre aussi qu'il y a probablement une réduction des financements. Tout simplement. Voilà, on l'a déjà évoqué dans plusieurs Guerres des Gamers par le passé, plusieurs podcasts et plusieurs émissions. On sait qu'il y a des financements qui sont traditionnels qui deviennent de plus en plus compliqués. Voilà, puisqu'en fait, ce qu'on a appris, on l'a déjà entendu lors de plusieurs événements passés, et on l'a réappris dans le cadre de cet événement que tu cites, Joss. On a appris que les stores étaient moins généreux. C'est-à-dire que pour que votre jeu figure dans le fameux Game Pass de Microsoft, le fameux Game Pass, quand vous êtes abonné, vous pouvez jouer à plein de jeux, c'est formidable. Tout le monde s'y retrouve pour l'instant. Pour l'instant. Eh bien, le chèque pour faire figurer son jeu là-dessus de Microsoft est nettement moins généreux. On n'a pas encore les chiffres, mais on sait en tout cas que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moindre que par exemple il y a un ou deux ans au niveau des contrats qui étaient signés. Idem pour si vous êtes joueur PC, vous connaissez forcément la plateforme de l'Epic Game Store. Epic Game Store qui chaque jeudi vous offre un ou deux jeux que vous gardez à vie dans votre bibliothèque, donc c'est extrêmement intéressant. Et bien pareil, l'Epic Game Store finançait des exclusivités, c'est-à-dire que pour qu'un jeu PC sorte exclusivement sur leur store au lieu de Steam et d'autres stores, pendant un an, Epic Game Store s'assurait en fait un chèque et l'exclusivité d'un jeu, tout simplement. Et ça, c'était quelque chose qui était une manne qui était très intéressante pour les développeurs. Et j'ai même, dans le cadre de la préparation de cette news, j'ai même appris un truc que je ne savais pas. Apple faisait la même chose, fait encore la même chose avec le service, je ne sais plus comment il l'appelle, le Games Arcade ou quelque chose comme ça. L'Apple Arcade, tout simplement. Et en fait, j'ai appris que quand le Apple Arcade a été lancé, c'est une sorte de Game Pass chez Apple, hein, tout simplement. J'ai appris que beaucoup de jeux qui sortaient sur ce service étaient rentables dès le premier jour de présence, 24 heures. Et ça, paraît-il que c'est totalement terminé, qu'il y a même eu une grogne et que Apple ne finance plus du tout de la même façon. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, il y a effectivement tous ces accords-là qui, pour nous, sont intéressants, pour nous joueurs, en tant que consommateurs.
Et ben, en fait, pour les développeurs. Pour les développeurs, également. Ils
s'éperdent. Exactement. Pour les studios indés en particulier, la situation devient immensément compliquée. Ouais. Parce que votre GTA, votre Ghost of Tsushima, votre
FF... Ça marchera toujours.
Bien sûr, lui, il n'a pas de
souci. Mais aujourd'hui, les vitrines Epic Games, les vitrines du Game Pass, etc., c'est ce qui permettait en fait de faire connaître un peu ces jeux indépendants, de leur permettre d'avoir du financement, de leur permettre de se développer. C'était vraiment quelque chose qui les faisait grandir. Alors aujourd'hui, est-ce que ça ne va pas devenir dramatique pour tous ces studios indépendants de ne plus avoir ces possibilités-là? Où est-ce qu'on se dirige? Ça devient vraiment compliqué. Et moi, je me posais une question, est-ce qu'il n'y a pas aussi l'essor des jeux de service qui va venir tuer un peu tous ces studios indépendants qu'on voit, tout le monde se bat un peu pour les avoir? Talder, qu'est-ce que t'en penses?
Je pense que c'est une possibilité. Après, les services d'abonnement, ça représente une petite proportion de la consommation des jeux vidéo. Donc, je pense pas que le fait que ces services-là ne fonctionnent pas très bien, ou pas à l'attendu en tout cas, c'est pas ça qui va faire que les jeux indés tombent complètement. Là, ils attendaient pour le Xbox Game Pass 100 millions d'abonnés.
Ouais.
Là, actuellement, Phil Spencer, il a révélé qu'ils étaient à 34 millions.
C'est ça.
Vraiment super loin de l'objectif.
T'as totalement raison, en fait. Et peut-être que, justement, ils le disent pas, mais il y a une baisse d'intérêt pour le Game Pass du côté de Microsoft. Ils ont voulu miser énormément dessus, mais aujourd'hui, ils se rendent compte que c'est peut-être pas là où ils vont mettre leur billet.
C'est ça. Et je pense qu'ils se rendent compte que leur offre, elle est pas en tout cas pas bien comprise, pas à la hauteur ou pas ce que les gens attendent. Parce que on n'est même pas à la moitié de l'objectif. Ouais. Donc là, pour eux, c'est, je pense, catastrophique. Et ils se rendent compte que tous les petits jeux qu'ils rajoutent, c'est pas ça qui fait venir les joueurs. C'est plutôt les Starfield, les Halo, les Diablo, etc. Parce que les joueurs qui... Nous, on est hyper connaisseurs, entre guillemets, mais la majorité des abonnés, ça va être plutôt des joueurs casual. Et eux, c'est vrai que quand on voit la liste qui est quand même hyper longue de plein de jeux qu'ils connaissent pas, dont ils ont jamais entendu parler, c'est plus facile de se diriger vers Assassin's Creed, Ark, des noms qu'ils connaissent, qu'ils connaissent bien, plutôt que Verde et Cocoon, Verde Open Roads, etc.
Mais moi, je me pose aussi la question, alors après, c'est pas déshonorant d'être à 34 millions, hein, c'est même plutôt positif, mais c'est en dessous de leurs objectifs, c'est ça qu'on souligne. Mais moi, je me pose aussi la question suivante. C'est génial de retrouver un Starfield Day One dans le Game Pass, en location ou potentiellement gratuit pour les abonnés. C'est génial de retrouver Hellblade 2 Day One aussi comme ça. Mais est-ce que ce n'est pas une manière aussi de dévaloriser les superbes licences que Microsoft possède ? Enfin, moi, je me demande si ça n'a pas un impact négatif aussi sur les joueurs.
C'est ça aussi qui fait que les joueurs viennent s'abonner. Parce que si on leur donne que des jeux anciens ou des jeux... Enfin, c'est comme l'offre PlayStation. Là, ils ont carrément arrêté de donner les infos sur leur nombre d'abonnés, tellement ça doit être catastrophique. Donc, PlayStation, le fait qu'il n'y ait pas les jeux Day One sur leur offre, ça ne donne pas envie aux joueurs de s'y inscrire. Et puis, ce n'est pas donné.
Avec un catalogue, moi, je trouve pour le coup plutôt illisible et moins fourni que celui de Microsoft. Mais bon, ça, c'est encore un autre débat. Écoutez, merci pour cette actu mitraillée. On va tout de suite passer au Clash du mois. Donc aujourd'hui, dans le Clash du mois, retour sur l'indie game Open Roads, une aventure narrative développée par Fulbright Studio, initialement annoncée en 2020, qui aura connu plusieurs complications en interne lors de son développement. Et en effet, on parle du départ de plus de la moitié des équipes de développement en pleine phase de production pour des raisons de management toxique, hein, c'est ce qui a été dit. Et c'est finalement chaperonné par Annapurna Interactive qu'une nouvelle équipe nommée Open Road Thieves redonnera vie à cette aventure laissée au point mort. Alors ici, c'est un jeu qu'on attendait quand même avec une grande curiosité depuis un moment. Donc, on va vous faire notre analyse. Hein, vous avez l'habitude, on va tout de suite commencer par l'histoire du jeu. French, est-ce que tu veux nous récapituler un peu l'environnement, l'histoire de Open Road?
Avec plaisir, surtout que, comme tu l'as dit, ici, on est en plein dans une expérience narrative. Donc, l'histoire va être prépondérante sur tout l'ensemble du jeu, hein, tout simplement. Alors, Open Roads, c'est avant tout l'histoire d'une mère et de sa fille. Voilà. Ça, c'est vraiment la thématique centrale et c'est le cœur du récit de A à Z durant tout le jeu. Alors, après le décès de sa grand-mère, Tess, une adolescente de 16 ans, et sa mère, Opal, elle se débarrasse des affaires. Hein. C'est ce que nous faisons tous dans la vie réelle, en général. Et ce sont toujours des moments assez tristes où on se plonge dans une certaine nostalgie, dans nos souvenirs perdus, tout un tas de choses, des souvenirs de...
Les photos, plein de choses.
Des cartons, les objets, tout ça.
Voilà.
C'est ce que font Tess et Opal, tout simplement. Et dans les cartons, elles vont découvrir des bibelots, tous les trucs classiques que tu peux découvrir, mais également ce qu'on appelle les secrets de famille. Alors ça passe dans le jeu, dans Open Road, ça se passe au travers surtout de correspondances étranges, des correspondances qui laissent assez vite à penser que la grand-mère avait une idylle avec un autre homme, qu'elle n'a pas rejoint, enfin c'est pas très clair. On parle éventuellement aussi d'un trésor qui serait perdu du côté de la frontière canadienne. On parle également peut-être de braquage, enfin il y a vraiment quelque chose qui n'est pas net et qui ne correspond pas à l'image de la grand-mère qui est décédée. Donc les deux femmes, Opal et Tess, vont se mettre un peu en quête de ce qui a pu se passer. Voilà. Et les convictions des deux femmes, elles vont être assez bousculées. Elles ont beau être de plusieurs générations différentes, hein, forcément, mère et fille, elles vont, en fait, en redécouvrant les objets et les lieux, elles vont en fait redécouvrir finalement le passé des personnages. Et c'est un peu dans ce contexte-là que Tess et Opal, la mère et la fille, vont un petit peu se rapprocher, je dirais, et elles vont également mieux se comprendre aussi sur l'une, sa vie de femme future, et l'autre, sa vie de mère et de femme d'aujourd'hui. C'est assez intéressant et assez subtil, en tout cas, côté histoire. Je ne sais pas ce que vous en avez passé.
C'est vrai que Moi, j'aime beaucoup les deux personnages, Tess et Opal. J'aime beaucoup, en fait, le lien qui est créé entre elles. On arrive, je trouve, moi, personnellement, j'étais un peu une ado rebelle qui posait beaucoup de problèmes. Et du coup, on retrouve un peu ce lien-là qu'on aurait pu avoir avec des personnages qui, moi, m'ont particulièrement émue. Je pense à celui avec qui parle d'une engueulade, où Tess aimerait comprendre un peu pourquoi son père est parti et sa mère qui essaye de la préserver. Il y a quand même des émotions qui sont vachement transmises au travers de cette relation. Et pour moi, c'est l'atout central de ce jeu et c'est ce qui en fait quelque chose de vraiment intéressant. C'est cette relation entre la mère et la fille.
Moi, ce que j'ai trouvé très touchant avec la mère et la fille, c'est si on parle de nous-mêmes, c'est les non-dits entre une fille et sa mère ou un fils et ses parents. Le fait d'ouvrir un peu la parole sur ce qu'on ressent, sur nos sentiments, sur des choses qu'on garde pour soi, alors qu'en vrai, on aimerait leur parler un peu plus librement. Ça, c'était très touchant.
C'est vrai que c'est très bien souligné par l'acting des deux comédiennes. Il y a Kerry Russell, j'oublie toujours, qui joue la mère, et j'oublie toujours la deuxième. Mais...
qui est Abby.
Voilà, et c'est terriblement bien doublé, avec conviction et compagnie. Là, c'est un véritable régal de ce côté-là.
Le doublage est excellent.
Le doublage est excellent, et j'ai bien aimé aussi ce système de lettres, parce que toute l'histoire va passer par les lettres. En fait, elle prend forme au travers des lettres que vous allez trouver au cours de votre aventure. Et je trouve qu'elles sont plutôt très bien écrites et ça tease encore ce côté enquête, intrigue. Donc vraiment là-dessus, c'est deux gros points forts. Après, moi, j'ai eu un petit problème sur le rythme du jeu. C'est vrai qu'on a un premier arc qui nous tease une intrigue qui est très intéressante, du coup, un peu sur les secrets de la grand-mère. Qui est ce mystérieux inconnu avec qui elle semble avoir une relation un peu particulière. Donc en fait, ça tease pas mal de choses. Ça prend vraiment son temps dans une première partie, c'est instauré en douceur. Et puis, quand on passe au second arc, en fait, à la deuxième partie du jeu, là, j'ai trouvé que tout était très expéditif, très bâclé. On comprend même la fin avant qu'elle n'arrive. Je ne sais pas si ça l'a fait pour vous. Mais bon, quand ils étaient surpris de la fin, je me suis dit, bah écoute, la lettre d'avant, on avait déjà compris, si tu n'avais pas compris. Et du coup, je trouve que ça nous laisse pas, en fait, vraiment cette accélération soudaine, nous laisse pas le temps d'apprécier la conclusion. Au final, la majorité des thématiques qui sont abordées, bah, elles deviennent survolées et avec un réel manque de profondeur. Et moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment dérangée dans l'histoire, alors que pour moi, le début était très prometteur. Mais du coup, je me demande, voilà, maintenant qu'on sait ce qui s'est passé en interne, est-ce que ces raisons-là font que cette seconde partie peut être tant bâclée ? Est-ce que c'est dû à l'arrêt de la production du jeu et à la relance par la suite avec une équipe beaucoup plus restreinte ? Est-ce qu'on peut du coup leur en vouloir réellement ? L'ensemble est intéressant, hein, l'ensemble est bon de l'histoire. Mais ça manque de profondeur, ça peine à décoller, c'est très bâclé, c'est dommage.
Ouais, complètement. Et moi, il m'a manqué vraiment quelque chose, c'est une ambiance musicale.
Elle est très discrète. Hein.
Pour soutenir l'émotion, certaines révélations, certains moments forts, j'aurais aimé, je sais pas, même sans gros moyens, juste une guitare qui joue ou un piano qui joue, pour renforcer l'émotion, je trouve que ça aurait vraiment aidé à se plonger encore plus dans les émotions.
C'est vrai qu'il y a un peu de sound design, mais les OST sont très très très, très minimes, quoi, pas marquantes.
À part le générique de fin, effectivement, où il y a une belle chanson, effectivement, c'est assez limité. Et ça contraste d'ailleurs avec le visuel global du jeu, hein, on va y revenir, qui lui est plutôt très travaillé. Mais je pense, comme tu l'as dit, Joss, effectivement, à mon avis, l'ambiance sonore fait les frais de ce développement compliqué ça a été mis complètement en retrait. Parce que moi, j'aime bien les ambiances sonores plus discrètes, avec simplement, je sais pas moi, le bruit du vent, le bruit des mouettes, où tu peux tout imaginer, hein, au niveau des bruitages. Là, c'est quand même, quand t'es en extérieur, il y a un manque complet, criant de quelque chose, quoi.
Ouais. Mais du coup, on va passer à la DA, vu que je vois qu'on en vient un peu sur les OST, sur la musique, sur tout ça. La DA, pour le coup, moi, je l'ai trouvée assez originale, hein, parce qu'on va avoir en fait des arrière-plans qui vont être assez réalistes. Ils sont travaillés en 3D, tout comme les objets qu'on va manipuler au cours de notre aventure. Alors que Tess et Opal, nos deux protagonistes, vous l'avez compris, elles sont en 2D faites à la main, un peu de manière cartoon. Et je voulais tout de suite, dans cette DA, vous parler pour moi de l'élément majeur, en fait, qui sont les doublages, qui sont vraiment excellents et vraiment importants dans cette aventure, puisque toutes les émotions du jeu vont passer par ces échanges qui créent une forme d'authenticité, hein, sachant que les personnages ne sont pas réellement animés. On va ressentir toutes ces émotions au travers de ces dialogues qui sont très très bien faits. Comme je vous l'ai dit, la musique est très peu présente, donc c'est pas elle qui va venir appuyer ces moments d'émotion. Après, au niveau, je vous parlais, elles sont très peu animées. Alors, je vous ai dit, elles sont faites de manière un peu cartoon, et en fait, elles vont avoir 2-3 expressions faciales qui tournent en boucle, en fait, en fonction des tonalités d'échange. Alors, personnellement, c'est pas quelque chose qui m'a dérangée, mais j'ai vu que certaines personnes ça les avait sortis un peu de l'immersion du jeu. Je peux le comprendre, mais ça fait partie de la DA. Pour moi, je la trouve plutôt belle. C'est pas quelque chose qui m'a dérangé, honnêtement. Et en effet, cette DA, pourquoi je la trouve belle ? Parce qu'elle suit en fait le parcours un peu émotionnel ressenti par les deux protagonistes. En fait, dans un premier temps, on va avoir un côté très coloré, avec beaucoup de lumière. C'est assez éclatant, un peu comme l'excitation qu'ont Tess et Opal sur le départ en fait, de cette folle aventure, de découvrir quels sont ces mystérieux secrets. Et puis progressivement, on voit que les couleurs se perdent jusqu'à devenir ternes. Dans le dernier chapitre, c'est vraiment sombre, c'est grisant. Chapitre de la révélation finale, hein, d'ailleurs, qui peut être un peu douloureux en fonction des révélations. Donc, cette DA fait sens, elle se suit, elle est plutôt belle. Et pour moi, en fait, sur ce que le jeu propose, ça fonctionne. C'est un point qui est plutôt réussi, en fait, dans Open Road.
Ouais, on voit bien la progression de ce qu'elles ont dans la tête avec la direction artistique. Et après, moi, j'ai eu un petit souci avec les différences, justement. Il y a différents styles de graphisme dedans. Et c'est vrai que je trouve que ça s'accorde un peu bizarrement. On dirait que c'est différentes personnes qui ont travaillé dessus. Alors, c'est sûrement le cas. Mais du coup, je trouve que ça fait un peu assemblé à la fin.
C'est bizarre quand t'arrives dans cette ferme et que t'as l'habitude que ça soit un peu cartoonesque et que t'arrives dans cette ferme et que tout d'un coup, tu prends un panorama où t'as l'impression que c'est hyper réaliste. Je comprends que ça fasse bizarre, mais pour le coup, moi, je trouvais que le mélange fonctionnait plutôt bien. Même si ça appuie pas sur les personnages, sur les émotions, c'est vrai qu'en fait, un coup, elle va être triste et tu vas voir qu'elle va faire une tête triste, etc. Je trouve qu'au final, ça fonctionne plutôt bien pour moi, l'ensemble.
Ça fonctionne plutôt bien parce que, en fait, ce sont les règles, les codes du visual novel qui sont appliqués. Hein. Donc, c'est-à-dire, ce sont quelques expressions qui changent suivant l'intonation et suivant certaines choses. Alors, le visual novel pur et dur, quand c'est low budget, il n'y a même pas de doublage. Hein, donc, tu as juste vraiment ton petit texte.
Ouais. Donc, c'est pas du tout animé.
Et là,
quoi.
Pour le coup, tu tapes l'acting qui est d'excellente qualité, on l'a tous dit. Et effectivement, comme vous, moi, j'ai été très frappé effectivement par les. Suivant les actes, vraiment des disparités très fortes de rendu visuel, de longueur d'arc. Très clairement, le premier acte est le plus long, par exemple. Et ouais. Ça, c'est assez étonnant. Et en fait, que le jeu ait eu un développement compliqué, à la rigueur, c'est pas ça qui m'embête, moi, en tant que joueur. Mais on parle quand même quelque part d'un road trip, c'est quand même un peu la base de l'intrigue. Road trip, il est quand même très condensé, donc quelque part, il y a un petit problème entre les moyens et l'objectif de ce que le jeu veut te faire vivre. Ça m'a un petit peu gêné.
On ressent moyennement l'aspect voyage lointain. Alors évidemment, c'est en voiture, donc on peut pas changer complètement de décor, on s'entend. Mais oui, cet aspect road trip, je trouve, on le ressent pas vraiment. Finalement, ils auraient pu aller dans la ville d'à côté, que ça aurait été un peu pareil.
Un road trip un peu bâclé, malheureusement. C'est vrai, hein, la dernière partie, et on le disait, est tellement expéditive qu'au final, ça en devient frustrant, alors que cette première partie instaure beaucoup de choses, prend son temps. Moi, je suis comme vous, hein, j'ai été un peu frustrée sur le rythme que le jeu propose.
Et c'est d'autant plus frustrant parce que moi, je m'attendais pas à grand-chose et j'ai trouvé le rendu visuel vraiment très bon. Moi, j'aime beaucoup cette dimension cartoon, très colorée du début, les nuances qu'on a au fil des actes et compagnie. Moi, je trouve ça très riche. Alors, on pourra toujours s'interroger sur le fait que, est-ce que c'était utile de mettre autant de ressources pour modéliser en 3D tout un tas d'objets ?
Non, on en parlera après. C'est pas utile, sachant que les trois quarts sont quasiment inutiles, en fait, et n'apportent absolument rien. Il y en a encore quand tu vas manipuler certains objets qui vont t'apporter un peu du contexte à l'histoire, parce qu'elle va appeler sa mère et du coup, elles vont se remémorer des souvenirs. Mais c'est minime dans en fait, les objets que tu vas manipuler. Donc non, c'est pas utile d'avoir ajouté tout ça et d'avoir perdu du temps là-dessus, c'est sûr.
Oui, non, mais c'était peut-être pas totalement utile. Alors après, bon, pour vous donner un petit élément de contexte, leur tout premier jeu à cette équipe, c'était Gone Home. Et Gone Home, c'était un jeu totalement low budget et qui marchait déjà comme ça. Dans une maison où on ne croit strictement personne, une maison qui est vide. Et en fait, ce qui était très intéressant et qui reprenne un petit peu dans Open Road, ça m'a vraiment frappé quand j'y ai joué, c'est que dans Gone Home, par exemple, sur leur premier jeu, en fait, comme tu ne croisais personne, tu devais vraiment analyser sous toutes les coutures en te disant peut-être que je vais trouver, je sais pas, une petite note cachée dans un petit cahier, dans un journal, dans quelque chose. Et en fait, tu devais te créer quasiment ton histoire. Et voilà. Dans Open Road, c'est pas très utile vu qu'il y a une narration très forte qui est présente. Donc du coup, modéliser autant d'objets inutiles comme les balais, je crois, Taldé, on en a parlé un peu en privé.
Les balayettes, mon cauchemar.
Non, puis les objets sont pas réellement cachés hein, pour l'intrigue, tu les trouves quand même relativement facilement, mais après c'est surtout au niveau des environnements. Moi je me rappelle hein, dans la maison, hein, la maison du début du jeu, à un moment donné on monte dans un grenier et j'avais trouvé ça assez beau. On voit les petits grains de poussière qui volent un peu avec ce rayon de lumière qui rentre par la fenêtre. Il y a des beaux environnements. Il y a des beaux environnements. Il y a un contraste qui peut perturber. Il y a un manque d'animation au niveau des protagonistes qui peut perturber également. Mais dans l'ensemble, ça fonctionne. C'est quand même l'un des éléments pour moi les plus réussis du jeu. Maintenant, j'aimerais qu'on parle du gameplay qui est très simple.
Très minimaliste. Très minimaliste. Eldar, est-ce que tu veux nous
dire un peu comment fonctionne OpenRum en termes de mécanique?
Oui, bien sûr. Alors, on va avoir une suite de tableaux d'environnement dans lequel on va se déplacer en vue à la première personne. Et on va interagir avec divers objets de l'environnement qui vont nous emmener vers des dialogues.
Ou pas.
Pas, hein. Donc, comme on l'a dit, il y en a beaucoup qui ne vont pas nous faire du tout avancer dans l'histoire. Mais bon, certains objets vont quand même nous faire avancer dans cette histoire, qui vont nous faire avoir des échanges avec la mère et en apprendre plus sur les protagonistes. C'est hyper simpliste. Moi, il m'aurait manqué un petit peu, effectivement, au lieu de modéliser donc, cette fameuse balayette et la petite pelle à poussière, qu'on croise quand même deux fois dans le jeu. Désolée, j'ai un traumatisme. Non, j'aurais aimé qu'il y ait par exemple des objets, j'en sais rien, une petite boîte avec une clé à trouver, ou des objets avec lesquels on peut vraiment interagir. J'en sais rien, quelque chose en verre qu'on doit casser pour récupérer ce qu'il y a dedans. Enfin, je donne des idées comme ça, mais des choses qui ne sont pas forcément hyper compliquées, je pense, à mettre en œuvre et qui auraient donné un petit peu plus de substance au gameplay, qui nous aurait donné plus l'impression de servir à quelque chose.
T'as totalement raison, parce qu'en fait, Open World, le jeu est principalement axé sur l'histoire. Du coup, il propose très peu de gameplay, comme t'as le dire là. Et en plus de ces éléments modélisés qui t'ont traumatisé, j'ai l'impression, on a des bugs de caméra insupportables. Et du coup, sachant que la majeure partie du jeu consiste à interagir avec ces éléments du décor, on se retrouve à s'énerver très vite. Et le problème sur ces éléments, c'est que la plupart, comme tu le dis, n'apporte absolument rien au jeu, n'ont aucun contexte. La majorité sont décoratives, des balayettes, des stylos sur le sol. Donc au début, on a envie de tout toucher, de tout voir, on prend vraiment son temps. Mais par la fin, en fait, on en vient très vite à bâcler l'exploration, qui est pourtant le seul élément du gameplay. Parce qu'en fait, la majorité des éléments sont inintéressants.
Ouais, je suis complètement d'accord. Alors que ça aurait pu, même si c'est pas des lignes de dialogue incroyables, en dire plus sur les goûts de la mère ou les goûts de la fille. Ouais. On apprend un petit peu de leur background, mais plus ça aurait été bien pour peut-être s'attacher plus rapidement aussi au personnage.
Mais c'est effectivement, il faut bien comprendre que Open Road, c'est un digne descendant des Walking Simulator. Donc, c'est des c'est un genre
lent.
Que j'aime
c'est
bien,
très lent.
C'est un genre que j'aime beaucoup, j'avoue, je confesse, mais c'est un genre. C'est...
Moi, je spammais la touche pour essayer de courir. Quoi.
Ah oui, on peut pas
moi aussi.
On peut pas courir. Et quand il y a une map assez grande, typiquement le premier acte, c'est vrai que ça peut être un petit peu gênant. Par la suite, c'est un petit peu plus petit les lieux. Donc ça va, on s'en sort. Et surtout, moi, je pense que c'est vraiment un reliquat, je vais le redire, mais qui est lié à leur premier jeu, à Gone Home. Parce que dans Gone Home, il faut bien s'imaginer, on croisait aucun personnage. On avait très peu d'éléments de contexte au départ. Or, on ne savait même pas si on était un fantôme, qu'est-ce qu'on était exactement. Et il fallait vraiment enquêter sur les objets eux-mêmes. Donc, du coup, ça trouvait son sens, en fait, de vraiment tout manipuler et chercher. Dans Open Rose, ce n'est pas très intéressant, parce que tu l'as très bien dit, Alder. Effectivement, il n'y a pas toujours des interactions entre la mère et sa fille sur les objets. Parfois, il y en a, mais pas tout le temps. Quand il y en a, en général, c'est très réussi, parce qu'il y a de la complicité. On nous raconte des choses sur la mamie, on nous raconte des choses sur leur vécu, sur comment ils ont apprécié les choses, sachant que c'est un jeu qui est aussi très construit avec aussi une famille étendue qu'on ne verra jamais. Il y a quand même une sœur aussi dont on entend un peu parler par-ci par-là. En fait, donc il y a tout un tas d'histoires qui se greffent aux objets, mais ça ne transparaît pas tout le temps dans le jeu et du coup ça laisse cette impression un peu d'inachevé que vous avez toutes les deux dit.
Ouais, et ils construisent beaucoup de choses dans l'histoire dont on ne verra jamais la fin. Donc c'est un peu frustrant aussi.
C'est pour ça que moi j'aimerais bien voir une vraie suite avec j'espère une des meilleures conditions de développement, mais j'aimerais voir moi plus de ces deux personnages, j'aimerais voir de la sœur. Je trouve que la famille est vraiment intéressante et l'écriture de Tess et Opal est vraiment cool. Et du coup, c'est là où je le redis, mais c'est très frustrant parce qu'on a envie de creuser cette relation. On parle du père aussi, le père qu'on ne voit jamais, mais on a beaucoup d'échanges par texto avec lui quand on joue la fille. Et on a envie un peu de creuser tout ça, quoi. On en reste vraiment, en fait, ce qui est dommage sur le jeu, que ça soit sur son histoire ou sur son gameplay, on reste très en surface. Ça manque réellement de profondeur, c'est pas totalement abouti, quoi.
Quelque chose que j'ai beaucoup aimé aussi et dont on n'a pas trop parlé encore, c'est dans les conversations, on va avoir des choix de discussion
qui vont,
dans les textos et même avec la mère. Et avec la mère. On a des propositions de réponses qui vont nous amener vers plusieurs... Alors, je ne l'ai pas fait plusieurs fois, mais je suppose plusieurs dialogues. Et ça permet de nous plonger un petit peu dans ce qu'on aurait pu répondre à la place de la protagoniste. Et ça, j'ai trouvé que c'était plutôt chouette.
C'est vrai que tu fais bien de le souligner, ça, parce que ça me fait penser à Joss qui parlait de son adolescence rebelle passée. Et effectivement, très souvent, dans les choix de réponse, tu peux soit être conciliant, compréhensif avec ta mère.
Ou plutôt piquant. Hein.
Ou très piquant. Et parfois, ça génère des vrais petits clashs. Et ça, c'est bien senti, ça. Ouais, ça, je l'ai beaucoup aimé aussi.
Ouais, ça génère des moments, moi, personnellement, qui m'ont ému. Et le jeu, je l'attendais pas. Je l'attendais dessus. Mais il y a certaines conversations que j'ai trouvées quand même vraiment assez dures. Et moi-même, je me suis ressentie peinée d'avoir choisi ce choix de dialogue, en fait, et d'avoir peiné ma mère, par exemple. On voit son expression qui change et un grand silence dans la voiture. Là-dessus, j'ai trouvé ça très, très bien foutu.
Ouais, je l'ai peiné aussi plusieurs fois. Je crois que j'étais un peu piquante aussi.
Mon ado, rebelle.
mon alter ego d'ado rebelle est ressorti un peu.
Donc, comme quoi, c'est plutôt bien amené, cette fonctionnalité-là. Ouais. Talder, est-ce que c'est un jeu que tu recommandes, toi, autour de toi?
C'est un jeu que je peux recommander si des gens sont abonnés au Game Pass, déjà.
Ouais.
Parce que c'est inclus dans le Game Pass, c'est plutôt une aventure chouette à suivre. Ça change un petit peu de ce qu'on voit d'habitude et les thèmes abordés changent aussi un petit peu. Donc ça peut faire un peu de fraîcheur, de soutenir aussi ce genre de proposition. Après, c'est sûr que je crois que je l'ai vu à 20€ ou 16€ sur Steam.
20€,
bon, peut-être pas à ce prix-là, mais pour les abonnés Game Pass, ouais, je pense que c'est une petite aventure chouette, pas très longue. Ça fait un petit film, quitte à le faire même avec quelqu'un. Et puis, c'est un petit film à suivre.
Ouais, je suis un peu comme toi. Moi, j'ai un peu du mal aussi à le recommander. C'est vrai que si c'est dans le Game Pass et que vous cherchez une petite aventure à faire, oui, allez-y. Ça reste une proposition quand même assez originale. Mais si vous devez l'acheter, non, n'y allez pas tout de suite. En fait, c'est une proposition qui est pleine de bonnes intentions. Hein. Tout est plutôt intéressant, mais le problème, c'est que tout reste effleuré. Les thématiques abordées, elles manquent de profondeur. On a, oui, certes, ce lien avec la mère et la fille que je crois on a tous apprécié, j'ai l'impression. Mais en fait, c'est pas suffisant pour en faire un road trip mémorable. C'est un jeu qui aurait mérité de prendre un peu plus de temps pour qu'on puisse être vraiment émergé dans l'intrigue. Car au final, en fait, on se retrouve juste sur une conclusion hyper rapide et hyper expéditive, en fait. Et du coup, ça devient juste frustrant pour le joueur. Alors oui, il y a sûrement des problèmes liés au développement du jeu. Et c'est malheureux, parce que dans son ensemble, le jeu est vraiment plutôt bon, mais peine, en fait, juste à décoller, quoi. Donc, comme toi, Talder, si vous l'avez sur le Game Pass et que vous cherchez une petite aventure de 2 heures, à faire pour tuer le temps, allez-y, mais... pour moi, c'est pas un indispensable, malheureusement. Alors qu'il aurait pu être très très bien, je pense. Toi, French?
Ouais, il aurait pu être très très bien. Voilà, on pourrait conclure là-dessus. Mais je vais en dire un tout petit
il
peu plus.
Il aurait pu être très bien.
Mais non, en fait, ce qui m'embête beaucoup dans ce jeu, c'est que tu sens très bien qu'au niveau de l'écriture, sûrement que tout ça avait été posé avant les soucis du studio. Et en fait, tu sens très bien que c'est très, très bien raconté, qu'ils ont pris un soin sur les personnages. La sœur en particulier, moi, j'ai trouvé fascinante. Auguste, je trouve que c'est extrêmement...
Mais j'ai envie de la rencontrer.
Voilà, exactement.
J'ai envie de la rencontrer.
T'as envie d'aller à Chicago et de la rencontrer, c'est clair.
Voilà.
Et sans vous spoiler quoi que ce soit. Et non, mais voilà. Et ça, c'était vraiment très bien. Alors après, côté gameplay, c'est très minimaliste. Hein, il faut savoir dans quoi vous mettez les pieds. J'aime pas trop parler de la question des prix des jeux, parce que je trouve que c'est un peu hors contexte. Mais... Talder a néanmoins totalement raison. Si vous êtes abonné Game Pass, bon, vous pouvez y aller sans problème. Franchement, même en traînant, je pense pas qu'on peut passer plus de 4 heures dans le jeu. Hein. On a tous passé beaucoup moins.
Non, je pense pas. Donc, on a passé 2 heures.
Potentiellement, moi, je l'ai fini en deux sessions de jeu, par exemple, mais en une session, ça aurait pu le faire aussi. Donc, voilà, faut savoir dans quoi vous mettez les pieds. Pourquoi pas à deux, effectivement, pour découvrir, vous y lancer. Bon, sur Steam, effectivement, il est en offre promo de lancement, mais bon, il me paraît un petit peu cher pour ce qu'il a à proposer. Bon, c'est une aventure qui est inachevée, c'est beaucoup trop schématique, c'est beaucoup trop limité par rapport à ce que ça a proposé. Alors, dans le style des jeux narratifs, même les jeux narratifs courts de moins de 5 heures, il y a quand même de plus gros prétendants, des jeux plus intéressants que celui-ci. Donc ouais, je suis un petit peu embêté, j'ai aimé ce que j'ai joué, mais j'ai du mal à le recommander, sauf si vous pouvez y jouer dans le Game Pass par exemple.
Du coup, pour les curieux quand même, Open Road est disponible sur PC, PlayStation, Switch et Xbox. Donc, vous le retrouvez aussi dans le Game Pass, élément important. Comptez environ, c'est ça, l'aventure, 2 heures, 3 heures, allez, 4 heures, si vraiment vous vouliez manipuler tous les objets qui vous sont proposés. Mais l'aventure est plutôt rapide, hein, c'est une expérience plutôt brève. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez testé cette expérience, ce que vous en avez pensé. On serait très curieux de savoir vos impressions. Et en attendant, nous, c'est terminé pour le clash du mois et on va passer au calumet du pixel.
Oh, tu peux faire tourner, s'il te plaît?
Pas de soucis, man. Prends.
Alors aujourd'hui, dans ce calumet du pixel, je voulais qu'on revienne sur The Thaumaturge, un jeu d'aventure narratif et on peut aussi dire, hein, dis-moi si je me trompe, un peu d'investigation hein, qui prend place en Pologne et qui traite des thématiques plutôt matures et sombres, hein, si je puis dire. Comme le spiritisme, la folie ou encore la mort, de ce que j'ai cru voir. C'est un univers plutôt dark, au final. Je comprends que t'aies adoré French. Je te retrouve un peu.
On peut le dire.
Je te retrouve un peu dessus. On a une DA inspirée des contes gothiques avec un brin d'horreur fantasy, avec des mécaniques de jeu plutôt originales. C'est une proposition qui t'a particulièrement séduite, French, il me semble. Hein. J'ai cru voir tes messages dans le groupe. T'avais l'air d'être plutôt emballé. Du coup, je vais te laisser la parole. Sur ce jeu, si tu veux bien nous expliquer un peu The Thaumaturge et pour commencer, si on pouvait synthétiser un peu l'histoire, déjà pour qu'on comprenne où est-ce qu'on se situe. Écoute, je te laisse nous expliquer tout ça.
Exactement, en sachant que c'est assez original et puis n'hésitez pas non plus à me poser des questions, je serai ravi de vous répondre. Alors, l'histoire de The Thaumaturge qui est effectivement un coup de cœur, allez, on va le dire directement, comme okay. Ça au moins vous savez dans quoi vous mettez
pas
les
de
pieds.
Pas de débat.
Voilà, non, c'est un gros coup de cœur. Thaumaturge, donc, ça se passe dans le Varsovie de 1905. Varsovie, donc, qui est la capitale polonaise, comme tout le monde le sait. Et ce Varsovie, en 1905, qui est une période finalement assez méconnue, que je ne connaissais pas du tout, on est un peu au carrefour de tout un tas de choses, de plusieurs civilisations et de plusieurs époques. Je vais préciser, parce que c'est très important pour comprendre un peu dans quoi vous mettez les pieds, si vous voulez jouer à Thaumaturge. En fait... Varsovie, elle est sous contrôle de l'Empire de Russie en 1905. Le jeu s'en inspire, très largement.
Donc c'est politique un peu.
Oui. C'est politique. La politique est extrêmement présente. La psychologie, la politique, c'est extrêmement présent au sein
d'accord.
du jeu. Il y a aussi un sentiment nationaliste polonais qui est très très fort, parce qu'il y a des personnes qui n'acceptent pas d'être sous ce contrôle de l'Empire de Russie. Très important ça aussi au sein du jeu. En fait... Dans le Varsovie de Thaumaturge, on a des habitants qui ont des opinions, des croyances très diverses et parfois contradictoires. Et en fait, et c'est ça que je vais essayer de vous partager avec vous, c'est qu'en fait, on est dans un jeu qui est très gris. C'est-à-dire par là qu'il n'y a pas forcément des bons et des méchants, mais il y a surtout beaucoup de nuances entre ce bien et le mal. Entre le bien et le mal, c'est ça qui est extrêmement intéressant.
Et donc toi, est-ce que tu vas devoir choisir un peu dans quelle voie tu veux t'orienter ?
Alors oui, tu vas devoir faire un peu des choix de voix. Tout simplement parce que toi, tu incarnes un personnage masculin, ça s'est imposé. Comme The Witcher, vous incarnez Geralt. Ici, vous incarnez Victor Sulski, personnage masculin, qui est de retour à Varsovie après une brouille familiale. Je vais laisser volontairement le mystère là-dessus. On est dans les thématiques familiales dans cette émission. Hein,
encore ?
Ah oui, encore. C'est plus fouillé ici, mais ouais, on est encore là-dedans. Et encore une histoire de décès au passage.
Ah.
Et exactement, ouais. Et alors, notre personnage, c'est un thaumaturge. Un thaumaturge, qu'est-ce que c'est, vous vous dites ? Thaumaturge, en fait, pour faire rapidement, c'est un personnage qui a une faculté particulière qui lui permet de... Un peu comme un mentaliste, mais avec un côté plus ésotérique. Il a la faculté, en fait, de lire dans l'âme des gens, le lire dans les pulsions, qu'elles soient sombres, qu'elles soient positives, pourquoi pas. Et il a la possibilité aussi de faire un truc très intéressant, c'est de voir des êtres d'un autre monde... Les salutors, et les salutors, en fait, ce sont des créatures qui hantent les humains. Tu vois, Taldor, par exemple, quand toi, tu as une mauvaise pensée sur les gens, potentiellement, il y a peut-être un salutor qui vient prendre possession de toi et qui te guide vers quelque chose. C'est un petit peu ça, l'idée.
D'accord.
Voilà, et Victor, il a la possibilité, en fait, de voir ça et de voler et apprivoiser les salutors. Alors, ce n'est pas des Pokémon, hein, même si on pourrait y penser.
Oui, ça fait un peu Pokémon. Attraper les tasses.
Exactement. Alors, ce qui est très intelligent, c'est que tout ça est très narratif, c'est un RPG narratif de A à Z, très focus sur l'histoire, et on a souvent la possibilité d'en fait de soit laisser les traumas d'une personne, pourquoi ? Parce qu'en fait, je sais pas vous, mais dans l'absolu, dans la vie de tous les jours, parfois, il vaut mieux garder aussi ces traumas, pourquoi ? Parce qu'ils font partie de ce que nous sommes et de l'être humain dans lequel on s'est construit. Donc parfois, c'est pas forcément utile d'enlever un traumatisme. Ça dépend si c'est un handicap pour nous au quotidien ou pas. Ça, c'est un avis personnel que je donne.
Mais donc...
Et le jeu développe cette idée-là. C'est ça qui est très intéressant.
Mais donc, tes actions, le fait de les laisser ou de les retirer, etc., influencent ton histoire ou pas ?
Exactement. Et ça, c'est l'autre point extrêmement positif du jeu. C'est qu'à partir du moment où, comme vous l'aurez compris, c'est un jeu qui est très sensible à ce comment, qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que vous allez retirer un salutor qui hante une personne ? Est-ce que vous allez lui laisser éventuellement son traumatisme qui le hante ? Ben ça aura un impact direct. Et effectivement, c'est ça qui est très intéressant dans ce jeu-là, c'est que très très vite, très tôt, chaque action que vous allez faire ou ne pas faire, c'est aussi une action ne pas faire. Chaque action que vous allez faire ou ne pas faire, et ben en fait, ça va avoir un impact direct sur des rencontres futures, sur des possibilités futures.
D'accord.
Donc c'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez avoir vos choix multiples d'actions ou bien de dialogues, et ben très très vite, vous allez vous apercevoir que vous n'allez pas pouvoir faire comme d'autres jeux du genre, vous allez pouvoir éplucher l'ensemble des dialogues. Non, non, non. Directement, vous allez avoir peut-être deux ou trois possibilités sur les cinq proposées. Les deux autres seront biaisées.
Ah, ça, j'aime bien. Donc, le jeu est vraiment unique un peu à chaque joueur en fonction de comment il construit sa partie, quoi.
Il a une partie assez unique. En fait, ça rappelle un peu, mais je trouve que c'est beaucoup plus poussé ici. Ça, c'est pour te donner envie, Joss. Ça m'a fait penser à Garda.
Il me fait envie. J'ai juste... Ah, Garda, j'avais adoré.
Et ben, moi, ça me fait penser à Garda en fonctionnement.
Moi, j'avais une autre question parce que c'est un jeu qui me fait très envie, que j'ai pas encore pris le temps de le faire, mais je vais le faire par la suite, je pense. C'était les phases de combat. J'ai vu que c'était
exactement.
J'ai vu que c'était un peu plus particulier.
J'allais poser la même question, je pense.
Avec un système de cartes, il me semble.
Oui.
Ça me rappelle un peu le premier jeu qu'on avait traité avec la GG, ce système de cartes. Comment ça s'appelle le jeu un peu burtonien.
Lost in Random.
On se rapproche un peu de ça sur ce système de cartes. Moi, j'avais peur que ça soit un peu, ça manque de fluidité, que ça soit un peu répétitif en fait. Du coup, ces phases de combat cette mécanique-là.
C'est vrai que vous faites bien d'en parler toutes les deux parce que j'avais envie de parler vraiment des choses hyper positives du jeu. Et maintenant, vous m'amenez sur les trucs négatifs du jeu.
Ah.
Et il faut bien que les jeux aient aussi des défauts. Hein. Alors, il y a effectivement des séquences de combat de manière assez courante au sein du jeu. Ça rythme pas mal l'histoire du jeu. C'est pas non plus la proportion la plus importante du jeu. C'est aussi pour ça que j'ai voulu d'abord parler de l'aspect roleplay, l'aspect plus enquête, investigation. Et peut-être que j'y reviendrai aussi un petit peu. Pour vous répondre sur les combats. Les combats obligatoires par moment au sein de l'histoire, de toute façon, on ne pourra pas y couper. C'est des combats au tour par tour, effectivement. Il y a effectivement un système de cartes et de capacités pour lancer ses attaques. Alors moi j'ai trouvé, c'est pas que c'est mauvais, en fait les combats font le job, ça il faut le comprendre comme ça, c'est ni trop long ni trop court et il y en a pas trop au sein du jeu. Par contre c'est très classique dans le niveau de son fonctionnement. Il y a un système de stamina où en gros vous allez avoir parfois l'ascendance sur les adversaires, parfois l'adversaire aura une temps de réaction plus rapide, donc il prendra le dessus sur le premier action qu'il va avoir contre vous. Et puis après chacun va alterner ses combats. Pour donner un exemple, ça ressemble à quoi ? Ça ressemble en moins dynamique, ça ressemble un peu à nettement moins dynamique même, ça ressemble un peu à ce que Persona fait, par exemple.
D'accord.
Si vous connaissez la licence Persona, Persona 5, n'importe quel épisode. Ça ressemble un peu à ça, sachant qu'il y a à la fois les actions humaines de Victor, donc il va sortir son gun, ou il va pouvoir donner des coups de poing, c'est assez viril, hein, c'est ambiance Europe de l'Est de 1905 tout de même. Hein. C'est assez gore aussi, et surtout, on a aussi la possibilité d'exploiter ces salutors, parce que les salutors, les espèces de démons de la mythologie slave ou de la mythologie d'Europe de l'Est et compagnie, ça sert pas uniquement au décorum, même s'ils sont fabuleux si vous aimez le côté morbide, le côté décalé, dark, c'est très très bien modélisé. On peut aussi les utiliser pour prendre le dessus sur ses adversaires, donc on a aussi des capacités spéciales qui sont liées à eux et qui permettent de prendre le dessus. Donc ça, c'est plutôt sympa.
C'est ce qui va venir faire un peu ta variante dans ton gameplay.
C'est un peu la variante, tout à fait, à savoir qu'il y a trois niveaux de difficulté. Ce qui peut être très bien aussi, parce que si vous voulez du challenge, vous poussez le curseur très haut. Si au contraire, les combats, ça vous saoule un petit peu, vous passez en mode histoire, c'est pas facile, mais enfin, ça réduit vraiment les obstacles. Et du coup, ça permet d'apprécier, à mon sens, ce qui est vraiment le cœur du jeu, c'est-à-dire l'investigation, la découverte du train de vie des uns et des autres dans le Varsovie de 1905, et surtout découvrir, encore une fois, un point commun avec l'autre jeu dont on a parlé, les secrets des uns et des autres. Et alors là, au niveau intrigue politique, au niveau des intrigues familiales, vous en avez un paquet. Un gros, gros, gros paquet. Aimez ça, c'est là en fait où le jeu va être immensément riche, parce qu'il faut vraiment s'imaginer quelque chose. Le jeu se déroule sur un prologue et trois actes. Il faut vraiment s'imaginer que les actions qu'on va avoir dans le premier acte du jeu vont avoir des conséquences directes dans le premier acte, mais également vont fermer des voies de l'acte 2 et l'acte 3. Ça peut bouleverser beaucoup, beaucoup de choses au niveau des relations humaines que vous allez nouer. Et quand on a un jeu où il n'y a pas à gentil bien défini, à méchant bien défini, il y a des nuances de gris en permanence, bah pour trouver vos alliés, ça peut vite être compliqué. On vous parle de nationalisme polonais, nationalisme avec, sous autorité russe, on va vous parler de ce qui va se rapprocher peut-être du libéralisme tel qu'on l'envisage aujourd'hui. Enfin, on va manier ce genre de trucs. On va aussi parler des marchands juifs aussi, du judaïsme qui a un impact très très fort au sein du jeu. C'est très documenté par ailleurs, donc on apprend aussi beaucoup de choses.
Ouais, en effet, c'est très 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 politique en fait.
C'est extrêmement...
Plus je t'entends.
Ouais. Ah si, aussi.
Et super mature.
Ah oui, oui.
Et très mature.
C'est extrêmement mature. Ah ouais, là vous allez vous retrouver. Moi, le point de comparaison, alors c'est ce qui est marrant, c'est que c'est le studio qui a été retenu pour travailler sur le remake de The Witcher, tu le disais en introduction, ouais. Joss. C'est très marrant de noter qu'en fait, effectivement, ils partagent... C'est un petit budget, hein, toute proportion gardée, mais ils partagent finalement beaucoup de points communs avec The Witcher, premier du nom, si vous l'avez connu, finalement. Et on s'aperçoit que bah, chaque action qu'on va avoir va effectivement avoir des impacts sur des choses et pas forcément les choses qu'on souhaiterait. Je prends un exemple très très con, par exemple. Comme j'étais un petit peu avide des salutors, des fameuses bestioles démoniaques qu'on retrouvait au sein du jeu, à un moment donné, j'ai trahi ma parole. J'ai trahi la confiance de quelqu'un, un associé sur quelque chose, une histoire du jeu, et je ne lui ai pas laissé un salutor, au contraire, j'ai contourné et puis j'ai pris le salutor pour moi-même. Donc j'ai volé quelque chose, une créature. Ouais. Donc il m'en a voulu, ça a été violent, ça a été voilà. Et bien par la suite, le même personnage, alors qu'il fait l'objet d'un pogrom, d'une vengeance d'une communauté de personnes, il n'aura pas été en faculté de se défendre et il va donc mourir à cause de ça. Et je vais donc réduire mes interactions avec lui, forcément avec la mort, c'est un petit peu compliqué.
Donc, tu tues des gens, quoi.
Voilà. Et en fait, même si vous voulez jouer... Alors moi, j'ai joué un personnage, je l'ai accepté dès le départ, j'ai joué un personnage vraiment en nuance très très tôt sur beaucoup de choses. Mais même si vous voulez jouer gentil, vous voulez jouer ouvertement méchant, ça va avoir des impacts sur plein de choses. Et un truc très particulier, je vous donne un deuxième truc que j'ai trouvé particulièrement kiffant, c'est que le jeu gère la fierté. Et ça, je ne trouve pas ça si courant dans un jeu. En fait, on a parfois la possibilité de répondre de manière très fière, un peu masculine, testostéronée, en tout cas vraiment d'essayer de vouloir claquer le beignet à l'interlocuteur. Et ça, en fait, à la fois, ça donne lieu à des réparties assez sympas. Le jeu est doublé en anglais et sous-titré en français. Ça donne lieu à des réparties sympas, mais ça nourrit également notre faille intérieure. Et la fierté, c'est quelque chose qui est à la fois positif et à la fois négatif. En fait, trop de fierté va nous rendre absolument abjects aux yeux des gens. Trop peu de fierté, ça va nous rendre un petit peu fade, fallo par rapport aux gens. Et donc, du coup, vous n'allez pas pouvoir défendre de la même façon certains intérêts. Peut-être qu'après, il faut trouver le juste milieu. Mais le juste milieu est très compliqué à trouver. Et le jeu joue complètement l'aspect roleplay là-dessus.
Moi, je pourrais tout... Sur la construction de ton personnage, en fait. Quoi.
Totalement. Moi, le point de comparaison que j'ai eu, même si lui est plus abouti, mais ceux qui y ont joué vont comprendre tout de suite... c'est peut-être le jeu Disco Elysium qui lui marche totalement sur l'écriture et est totalement dingue au niveau de ce qu'il développe et au niveau de comment il construit ton personnage. Là, c'est un tout petit peu plus modeste, mais vous allez avoir le même type d'astuces d'écriture qui vont fonctionner. Donc voilà, c'est un jeu vraiment riche là-dessus.
Ok,
trop bien.
Bah écoute, merci beaucoup French pour toutes ces informations. Ça semble un studio prometteur à surveiller, non?
Ah oui, ça va être à suivre, ça va être largement à suivre.
C'est une belle proposition. Ouais. C'est une belle proposition. Faut compter combien d'heures pour le terminer?
Alors ça, c'est une très bonne question, parce que tu le sais, moi je me plains, j'ai tendance à me plaindre ces derniers mois de ces jeux un peu trop denses pour leur propre bien.
Ouais.
Ici, c'est une histoire principale, je dirais, de 16h-20h à peu près.
Ok, quand même.
Si on fait les intrigues annexes, on peut pousser jusqu'à 25-30 heures.
Alors, ok.
Tout dernier mot là-dessus, les intrigues annexes sont bien décrites. On voit très bien ce qui va être une intrigue annexe principale et ce qui va être quelque chose de beaucoup plus secondaire. Typiquement, les secrets urbains, ce sont des sortes de collectibles qu'on va trouver aux quatre coins de Varsovie. Bon, c'est rigolo, mais c'est pas très intéressant. Par contre, les quêtes annexes principales sont toutes scénarisées et toutes peuvent nous amener aussi à rencontrer des salutors qu'on ne rencontrera pas du tout dans l'intrigue principale. Donc, d'accord. Ça a un véritable intérêt. C'est très, très riche. Personnellement,
Elles sont pas là pour meubler, quoi. Elles sont vraiment importantes.
Non, c'est pas là pour meubler. Okay. Il y a de l'aspect enquête et il y a aussi du choix moral qui va se poser là-dessus. Donc, c'est extrêmement travaillé et ça, c'est à souligner. Moi, j'ai pris un grand plaisir à passer quelque chose comme 25 heures de jeu un peu dessus.
D'accord. Bah écoutez, pour les curieux de Thaumaturge, hein, du coup, c'est à peu près une trentaine d'heures hein, pour un prix de 35 euros. Le jeu est disponible sur quel support, French?
Alors, sur PC. Le jeu est sorti sur PC. Les développeurs prévoient une version console un peu plus tard dans l'année.
D'accord, très bien. Et bah écoute, merci pour toutes ces informations. En effet, c'est un jeu qui a l'air d'avoir enthousiasmé. Je suis très curieuse de le lancer par la suite quand j'aurai fini Rise of the Ronin. En attendant, merci à vous deux pour ce podcast. Taldor, j'espère que tu as passé un bon moment pour cette première.
Oui, c'était vraiment top. Je me suis sentie bien à l'aise avec vous, donc c'était super.
c'était un plaisir de te recevoir également. On a beaucoup aimé partager l'émission avec toi.
Oui.
Bon, je le redis, mais vous avez l'habitude. Hein, n'hésitez pas pour nous soutenir si vous écoutez cette émission, peu importe hein, sur quel support, YouTube ou quoi que ce soit, de mettre un petit pouce pour nous soutenir. Vous savez que c'est important. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur vos impressions également de cette émission. Si vous avez fait The Thaumaturge, si vous avez fait Open World, qu'est-ce que vous avez pensé, par exemple, des actualités que nous avons traitées aujourd'hui. En attendant, nous, on vous souhaite à tous une très très belle semaine. On se retrouve pour un prochain numéro très prochainement. Et puis, on vous souhaite à bientôt.
À bientôt.
Allez, ciao, ciao.
Bon jeu.
Jouez bien.